De tout ce qui est débat ce matin, l'idée n'est pas de rentrer dans tout ce qui peut être débattu sur ce livre. C'est doit être un des livres qui a fait couler le plus d'encre, mais c'est vraiment de vous donner envie ce matin. J'ai envie de vous donner envie de courir chez vous, d'ouvrir ce livre et de vous plonger dans la beauté et dans l'encouragement qu'il peut procurer. Parce qu'il est rempli de tellement de belles choses, ce livre. Il est rempli de sens de la vie. Il est rempli de justice. S'il y a bien un livre où on peut parler de justice, c'est ce livre-là. Il est rempli d'espérance. Et qu'est-ce qu'il fait, ce livre de la Bible? Il nous mène droit vers Dieu, Père, Fils, Esprit. Vers sa paix, vers son amour, vers cette vie éternelle après laquelle nous soupirons tous, parfois dans des moments de nos vies plus que d'autres. Il nous présente la victoire totale de Jésus par sa mort et par sa résurrection, sa victoire totale sur le mal. Le mal est détruit définitivement. La mort est anéantie définitivement. Il nous donne raison d'espérer dans les promesses de Dieu, dans la restauration de toutes choses et dans l'instauration finale du royaume de Dieu. Je vais vous en donner plein des raisons, hein, tout au long du... Et avant de lire, je voulais faire un petit mot d'introduction et on va rester sur les trois premiers versets ce matin. Même si on va en lire un petit peu plus, on va parler des trois premiers. Mais un petit mot après ça, l'introduction. L'Apocalypse est donc le dernier livre de nos Bibles qui aurait été écrit vers la fin du 1er siècle, entre l'an 90 et l'an 95, sous le règne de l'empereur Domitien. Alors, on peut mettre la slide d'après. Je vous ai juste mis rapidement, c'est juste pour donner un petit aperçu historique, mais la lignée des empereurs romains a officiellement commencé avec Auguste, qui est le premier empereur, qui a vécu de moins 20, qui a régné de moins 27 à plus 14. C'est donc la période où Jésus est né. Il est né sous l'empereur Auguste. Ensuite est arrivé Tibère. C'est la période de la mort de notre Seigneur que l'on situe à peu près autour de l'an 30. Et donc, c'était sous l'empereur Tibère. Ensuite, il y en a eu un qui n'est pas resté très très longtemps, qui s'appelle Caligula, mais apparemment qui a eu une maladie et qui est un peu devenu, voilà, un petit peu fou. Je passe. Ensuite, il y a eu Claude, et on trouve la trace de Claude, par exemple, dans Acte 11. Vous savez, quand le prophète Agabus prophétise qu'il va y avoir une famine, eh bien, c'est sous cet empereur-là. Ensuite, donc on n'est toujours pas sous Domitien. Hein. Ensuite, il y a eu Néron. Celui-là, il est malheureusement connu, parce que vous savez, il a fait brûler une partie de la ville de Rome, et puis il a trouvé le moyen d'accuser les chrétiens d'avoir fait cela. Et du coup, ben, malheureusement, il y a eu un certain nombre de chrétiens qui ont été soit crucifiés, soit brûlés vifs à cause de ce qui s'est passé là. Ensuite, il y en a trois qui se sont succédés très très rapidement, Galba, Othon et Vitellius, si j'arrive à les prononcer. Et ensuite, en vient un autre qui s'appelle Vespasien. Et lui est aussi malheureusement connu parce qu'il est venu contre la ville de Jérusalem où il a détruit une grande partie de la ville et bien sûr le temple en l'an 70. Mais c'est pas lui en fait a commencé cette invasion, mais cette destruction, mais c'est son fils qui a pris le relais et qui est venu détruire le temple de Jérusalem vers l'an 70. Et il s'appelle Titus et c'est lui qui est venu régner juste après Vespasien. Et donc du coup, c'est après Titus que nous arrivons à l'époque de rédaction du livre de l'Apocalypse, qui est aussi l'époque de rédaction, on pense, de l'évangile de Jean. Et donc, c'est Domitien qui a régné de 81 à 96. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Ceux qui veulent les slides, je peux vous les envoyer sans souci. C'est juste que je trouve toujours intéressant de replacer un petit contexte quand on ouvre un livre. Donc, sous Domitien, les chrétiens avaient déjà subi un certain nombre de persécutions, mais elles semblaient rester locales. Ce n'était pas encore les grandes campagnes de persécution, mais quand même, les chrétiens étaient persécutés dans plusieurs villes, et certains, bien sûr, sont déjà mis à mort pour leur foi. Et c'est sous Domitien qu'on voit apparaître d'une manière très très forte ce qu'on va appeler le culte de l'empereur. Et c'est Domitien qui va vouloir se faire appeler Dominus et Deus. En français c'est plus facile, Seigneur et Dieu. Voilà, pas moins que ça. Il voulait se faire appeler Seigneur et Dieu. Et bien sûr, on connaît tous ces histoires des chrétiens du 1er et 2e siècle qui ont refusé d'appeler l'empereur Seigneur et Dieu. Et on sait pourquoi, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur et qu'un seul Dieu. Et donc, ils ont été persécutés et tués parce qu'ils ne voulaient pas faire cela. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le texte. On va lire les 8 premiers versets, mais on va s'arrêter ce matin que sur les 3 premiers, et probablement qu'on continuera dimanche prochain sur les 5 autres. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Vous êtes heureux ce matin. Et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur, qu'elle nous fasse du bien ce matin et qu'elle nous encourage à toujours plus espérer en toi et persévérer dans la foi, Seigneur. Alors on y va. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Et ce que je voudrais faire aussi ce matin, c'est nous montrer combien la Bible est riche et que sur 3 versets, on peut s'arrêter parfois très longtemps. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. C'est le premier mot de la Bible, le premier mot de ce verset, qui a donné son nom au livre. C'est le mot apocalypsis. En français, bien sûr, ça a donné le mot apocalypse, mais ça a une très mauvaise connotation en français. L'apocalypse, c'est la destruction, c'est la terreur. Mais en fait, dans le sens original, pas du tout, et la Bible anglaise l'a traduit dans un langage qui est plus approprié, c'est le sens de révélation. Apocalypse, c'est une révélation. Une révélation soit d'une vérité connue, ou soit d'une chose inconnue. Et dès le début, on voit ici que Jean nous invite à ouvrir grand les oreilles, car ce qui va suivre dans la suite du livre est une parole non pas élaborée par sa propre analyse ou son propre discernement des choses, même s'il va s'en servir, mais c'est une parole donnée par Jésus-Christ lui-même. Révélation de Jésus-Christ. Autrement dit, tout ce qui est écrit dans ce livre est bien la parole de Dieu. Ça paraît bête de dire ça, mais je crois qu'on a besoin de l'entendre pour pouvoir l'ouvrir plus souvent. C'est bel et bien la parole de Dieu, une révélation donnée par le Verbe de Dieu lui-même. D'accord ? C'est vraiment important de se laisser toucher, je crois, par ça. Et cette révélation, il nous est dit qu'elle vienne du Père, qui est la source de toute chose. Révélation de la part de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Bien sous-entendu, Dieu le Père. Et qui la communique, bien sûr, le Fils. Comme l'Épître aux Hébreux le souligne, en fait, nous sommes dans une période de temps où c'est par le Fils que le Père nous parle. Amen. Dans Hébreux 1, on voit ce verset où Dieu communique, nous parle par le Fils. Jésus étant le médiateur de toute révélation divine. Et dès le début, on voit ce Dieu trinitaire à l'œuvre, avec la coopération du Père et du Fils, mais de suite, dès le verset 4, l'Esprit Saint apparaît sur la scène, sur le devant de la scène. Est-ce qu'on a déjà une bonne raison de vouloir se plonger dans ce texte ? Je pense que oui. On continue. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Révélation de Jésus-Christ, qui est donnée par le Père, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On va s'arrêter sur ce mot « montrer ». Montrer, ici, ça a le sens de « exposer aux yeux ». Paraît bête, mais j'ai envie de vous laisser vraiment cette image forte. Montrer, c'est le sens de exposer aux yeux. Jean annonce sans doute dès le début le mode de révélation que Jésus va utiliser dans ce livre. Et ce sont des visions. Jean va recevoir vision sur vision sur vision. D'accord ? Et donc, il s'est exposé à ses yeux. Le livre de l'Apocalypse est donc rempli de ces visions que Jean va tenter de décrire aussi fidèlement que Jésus va lui donner de le faire. Et on peut mettre la slide d'après. Pour ça, je voudrais dire qu'on ne lit pas l'Apocalypse comme on lit, par exemple, un Samuel ou un roi. Ce n'est pas un livre historique et chronologique. Vous savez, vous prenez l'histoire du début et vous arrivez à la fin. Ce n'est pas comme ça qu'il faut lire le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas non plus les psaumes. Ce n'est pas un recueil de poésie ou de chants. Forcément, si on l'aborde de cette manière-là, bien, on va peut-être y trouver des choses compliquées. Ce n'est pas une compilation de lois. On n'est pas dans le Lévitique non plus ou dans le Deutéronome. Ce n'est pas une lettre de Paul qui vient régler une question doctrinale. Ce n'est pas ça. Ou de faire de la discipline. Et même si on peut trouver, bien sûr, dans ce livre, la plupart de ces genres littéraires bibliques, il est important de comprendre comment ce livre a été élaboré pour, je crois, s'y exposer de la bonne manière. Et donc, je crois que ce livre est un livre de type prophétique appartenant au genre apocalyptique. Alors je vais faire un petit peu une caricature pour essayer de nous aider à comprendre et peut-être à nous y exposer un petit peu mieux. du moins de nous donner envie de nous exposer à ce texte. Eh bien, j'ai pris le... On peut mettre la slide d'après. Imaginons que nous allions à Nice. Vous avez tous visité le musée Chagall. Très joli. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller le faire. C'est magnifique. Donc, imaginons que nous sommes devant la porte d'entrée du musée à Nice. Et dans le musée, il a été instauré un parcours fléché avec de la musique. D'accord ? Imaginons qu'on on décide d'y aller comme le monsieur là. Les yeux fermés, en nous laissant simplement guider par le son de la musique. En écoutant peut-être les explications. Vous savez, quand on s'arrête parfois à certains tableaux, il y a quelqu'un qui parle, si on a un casque. Et puis, voilà, on se ferait une certaine idée de l'exposition et de ce moment de visite. On aurait une certaine représentation qui nous serait propre. Mais est-ce qu'on aurait vraiment la représentation que l'exposition a voulu mettre en œuvre, ou même que l'auteur même a voulu nous transmettre? Est-ce qu'on aurait ressenti vraiment les émotions que l'artiste a voulu que l'on ressente, ou nous faire réfléchir sur les choses que l'artiste a voulu nous proposer? Une autre façon d'y entrer, ça aurait pu être, bien sûr, les yeux ouverts, mais on se dit « Oh, je m'en fiche de la façon dont l'exposition elle a été faite. Moi, je décide d'aller voir les tableaux de manière chronologique. » C'est-à-dire, je vais voir, celui-là a été peint en premier, après je vais aller voir celui qui a été peint en deuxième, et puis je vais aller voir celui qui a été peint en troisième, et je continue par le quatrième qui est à l'autre bout de la salle. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on se perdrait, non ? On se dirait, mais mince, quel sens ça a de lire cette exposition de cette manière-là. Et on passerait peut-être justement aussi à côté de l'intention de l'auteur, malgré nos yeux ouverts. Et je crois que donc pour lire le livre de l'Apocalypse, c'est un peu la même chose. Ce livre est constitué d'une succession de visions. Et je crois qu'on peut les comparer à des tableaux. Ce sont des tableaux à observer avec ses yeux, plus qu'avec ses oreilles. Vous vous souvenez, montrer, on a dit, c'est exposer aux yeux. Et je crois que l'Apocalypse est écrite de cette manière-là, où on doit chercher à être devant un tableau, alors pas de Chagall, de Jésus, et à y rester, à contempler ce tableau. Et je crois que l'Apocalypse est organisée dans des coins d'exposition qu'on peut appeler des septénaires. Ouh, ça c'est un vilain mot, mais vous allez voir, c'est pas très vilain en fait. Et donc on lit pas l'Apocalypse comme on lit le livre des Actes. Peut-être je vais vous laisser cette image. Le livre de l'Apocalypse, c'est Tintin et Milou de notre époque. C'est une bande dessinée. Mais vraiment. Et je crois que quand on se met en face du livre de l'Apocalypse, peut-être les enfants sont plus aptes parfois que nous à lire et à comprendre ce livre. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir cet intérêt pour l'imagerie. Et je crois que quand on lit le livre de l'Apocalypse, il faut qu'on développe en nous cet intérêt pour l'imagerie et qu'on ouvre une bande dessinée plus qu'un roman ou qu'un livre, un dictionnaire, un livre explicatif. Ah, ça a disparu. Et donc, pour finir sur ce mot montrer, je voulais juste vous montrer, pareil, je peux envoyer les slides si vous voulez, que le livre de l'Apocalypse, en fait, est organisé. Alors qu'on a l'impression que Jean part dans tous les sens, en fait, pas vraiment. Et ce que je vous propose, c'est que quand vous lisez, si vous n'avez pas le temps de lire tout le livre, ben c'est d'aller dans une des salles. Vous pouvez choisir une salle. Tiens, si j'allais voir les sept églises, premier septénaire. Tiens, si j'allais voir les sept sceaux, deuxième septénaire. Les sept trompettes, les sept visions, les sept coupes, les sept paroles de jugement contre Babylone, ou alors les sept visions de la victoire finale de Christ. le chapitre 1 et les deux derniers chapitres. Ben, le chapitre 1 fait plus office d'introduction au livre et les deux derniers font office de conclusion et d'épilogue. Alors, on revient. C'était pour montrer, donc ça c'était le mot montrer, quoi à qui ? Alors on va commencer par à qui ? Il nous est dit à ses serviteurs, pour montrer à ses serviteurs. Alors qui sont les serviteurs ? Bien, vu que Jean écrit à des églises locales, verset 4, il paraît évident que les serviteurs sont les disciples de Christ, ceux qui ont été ajoutés à l'église, peu importe leur nationalité. Et pour leur montrer quoi ? Eh bien, les choses qui doivent arriver bientôt. Alors ici, j'avais envie de dire deux choses. Bien sûr, il y a plein de choses à dire, mais je voudrais dire deux choses. C'est que premièrement, le livre de l'Apocalypse s'adresse en premier lieu aux chrétiens de l'époque. Jean écrit vraiment à cette église. Ce n'est pas cette église farfelue qui n'ont jamais existé. Non, les sept églises sont sept réelles églises. Et donc, il écrit en premier à eux, et en particulier donc à ces églises qui sont mentionnées au chapitre 1, mais aussi au chapitre 2 et 3. Et en fait, quand on étudie un petit peu la théologie, on s'aperçoit que ces sept églises étaient très vraisemblablement sous la direction apostolique de l'apôtre Jean. Et ces églises, elles sont dans quel contexte, qu'est-ce qu'elles vivent ? Eh bien, elles vivent la persécution de l'Empire romain, comme on a pu le voir, et elles sont dans ce contexte-là. Et puis, de temps en temps aussi, il y avait quelques petits groupes issus du judaïsme qui ne voulaient pas, parce que vous savez que le christianisme vient du judaïsme, et du coup, ils étaient assimilés, et puis il y avait des groupes dans le judaïsme qui ne voulaient pas qu'il y ait ce mouvement qui naisse. C'est après par extension que ce livre est un encouragement d'abord pour tous les chrétiens persécutés du premier siècle. J'insiste sur la contextualisation parce que je crois que c'est important. Du premier siècle en tout lieu, sur tout l'Empire romain, et encore par extension, ça devient un encouragement et une parole de Dieu pour tous les chrétiens, pour nous aussi, en tout temps et en tout lieu. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on aborde l'Apocalypse, on est comme ça et on dit « Mais qu'est-ce que tu racontes, Jean ?» Parce qu'on ne comprend pas et on s'imagine que Jean a fait exprès de mettre un langage complètement farfelu pour perdre. Pensez ça ? Et en fait, pas du tout. Tous les symboles de l'Apocalypse, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas du tout un langage farfelu. C'était les églises qui étaient sous sa supervision et ces églises-là connaissaient très bien le langage que Jean allait employer dans le livre de l'Apocalypse. Les chrétiens persécutés n'avaient pas de temps à perdre à se dire « Tiens, 666, c'est le chiffre de la bête, alors est-ce que ça va être une puce électronique ?» Ou vous pensez qu'à cette époque, ils avaient le temps de ça ? Ou l'énergie pour ça ? Non ! Ça n'a pas été écrit pour ça, d'accord ? Aujourd'hui, oui, on en fait plein de spéculations, mais à l'époque, ça a été écrit pour encourager les chrétiens. Les juifs qui sont venus à Christ pour les encourager dans leur foi à tenir ferme face à la persécution. Ils n'avaient pas le temps de prendre un décodeur et de décoder tous les symboles, d'accord ? Ils les connaissaient. Alors nous, on est 2000 ans après, c'est vrai. Et alors peut-être qu'on a besoin de se replonger dans les symboles de l'Ancien Testament. Amen. J'essaye de vous motiver. On continue. L'expression « bientôt », c'est la deuxième chose dont je voulais parler. Hop. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et ce bientôt, il est aussi à remettre dans le contexte du Nouveau Testament. Bientôt n'est pas à entendre comme une échelle de temps réduite. Dans notre langage courant français, c'est ça, bientôt. Mais dans le langage du Nouveau Testament, c'est plus un processus, ce bientôt. C'est un processus de temps qui a déjà été enclenché et qui nous achemine inéluctablement vers le retour de Christ. C'est ça que ça veut dire bientôt. Ce qui va arriver bientôt. Ça veut dire que Jésus a déjà commencé son œuvre et que de manière inévitable, il va l'amener à la fin. L'établissement, son retour et l'établissement du royaume final de Dieu. Et ce mot bientôt, bien sûr, est à mettre en parallèle avec l'expression, vous savez, les derniers temps dans le Nouveau Testament. Souvent, on l'interprète mal, mais ces derniers temps, ces mots ont inauguré quoi ? Eh bien, tout simplement, la venue de Jésus sur terre, sa mort et sa résurrection. Nous sommes, comme l'Épître aux Hébreux, par exemple, le dit, Hébreux 1, verset 2, dans les derniers temps. Et nous y sommes depuis 2000 ans. L'autre jour, il y avait un témoin de Jéhovah qui est venu sonner à ma porte et qui a commencé comme ça en disant « Vous savez, monsieur, nous sommes dans les derniers temps !» Et moi, j'ai gentiment répondu « Oui, depuis 2000 ans !» Le retour de Christ se veut donc proche dans le Nouveau Testament. D'accord ? Il se veut proche ou bientôt. On peut lire Jacques 5, verset 8, ou 1 Pierre 4, 7, ou même Apocalypse 22, où Jésus dit « Je viens bientôt ». Car nous sommes dans l'ère des derniers jours où Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un terme de durée, mais c'est un terme d'inévitabilité. Ouh là là, il est dur à dire ce mot. Ça ne peut pas être évité. Et donc, je crois que ce mot « bientôt » nous invite à embrasser très fort dans notre cœur que le retour de Jésus peut se produire à la fois à n'importe quel moment. Dans les évangiles, on voit qu'il viendra comme un voleur. Et que son retour ne peut pas être évité. Jésus ne va pas se perdre en route. Il ne fera pas de détour. Il est bientôt là. Amen. Les choses qui vont arriver bientôt. Ainsi, même si notre première lecture doit être prétériste, j'emploie encore un gros mot, ça veut dire pour les chrétiens de l'époque, dans leur contexte, sous l'Empire romain, le livre de l'Apocalypse est un puissant encouragement pour tout chrétien qui traverse aujourd'hui des difficultés, quelles qu'elles soient. La victoire de Jésus sur le péché, sur le mal, sur la maladie, sur la mort, sur Satan lui-même. Et cette victoire, elle a déjà commencé. J'espère que ça vous donne envie de lire ce livre. Elle a déjà commencé et elle est inévitable. Nous la vivrons, certes, dans sa plénitude, bientôt. En attendant, persévérons dans la foi, comme ça nous a été encouragé ce matin. Car Jésus vient de manière sûre et certaine. Et je finirai en disant une dernière chose sur ce bientôt, c'est que ce bientôt devrait être pour nous une grande source d'encouragement à prier, mes amis. Parce que Jésus revient bientôt. Et on devrait vraiment être encouragé par ce bientôt pour prier sans relâche face aux difficultés que nous pouvons traverser. Car Jésus a déjà vaincu tout cela. Et bientôt, nous entrerons pleinement dans cette victoire totale et définitive. Amen. Bientôt. On continue un petit peu. Ah ben oui, j'ai pas lu ce verset, Apocalypse 21, 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. On continue. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. La mention d'un ange ici et de l'expression serviteur font clairement référence au prophète de l'Ancien Testament qui annonçait une parole de la part de Dieu. Jean s'inscrit donc, par l'utilisation de ces mots, de ces termes, dans cette lignée de la parole de Dieu qui est transmise aux hommes et mise par écrit et intégrée dans le canon biblique de la Bible. Du coup, je réinsiste, mais c'est parce que c'est Jean qui insiste, en un seul verset, Jean nous dit deux fois que cette parole est une parole de Dieu. C'est une parole directe de Jésus-Christ et c'est une parole qui s'inscrit dans cette lignée des paroles qui ont été données tout au long de la Bible. J'espère que vous n'avez plus d'excuses et que vous allez vraiment lire ce livre avec enthousiasme et sérieux, parce qu'il fait clairement partie du canon biblique. On continue, parce que le temps tourne. Verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc c'est Jean, d'accord? Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Jean, comme les autres apôtres, ont reçu de Jésus lui-même le ministère de témoigner de la parole de Dieu, de témoigner de la vie de Jésus et de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Et tout ce qu'ils ont vécu, quand bien sûr le Fils était parmi les douze. On peut lire dans Jean 15, verset 26, je crois que je ne l'ai pas mis, Jean 15, 26, 27. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Donc Jean a clairement reçu ce mandat de la part de Jésus. Et Jean s'évertue donc à préciser ici que ce qu'il va partager va s'appuyer sur des visions transmises directement par Jésus lui-même et aussi sur tout ce qu'il a vu, vécu, entendu durant son ministère terrestre. Jean a reçu l'autorité pour transmettre ce livre, non seulement de la part d'un ange, mais aussi de la part de Jésus lui-même. Et encore ici, Jean est légitime pour transmettre une parole de Dieu, car il est un témoin fidèle. Il a marché pendant 3 ans avec Jésus. Un témoin fidèle de la parole de Dieu et du Fils de Dieu lui-même, qu'il l'a mandaté en personne pour témoigner. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Eh bien que nous pouvons nous confier pleinement dans les paroles du livre de l'Apocalypse. Et nous pouvons les prendre et les appliquer à notre foi. On va terminer avec le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, donc autrement dit de ce livre, et qui gardent les choses qui sont écrites, car à nouveau le temps est proche. Voici la première Jean, il aime bien le chiffre 7, vous le découvrirez vraiment en lisant ce livre. C'est la première des 7 béatitudes contenues dans le livre de l'Apocalypse. Il y en a 7, je ne vous les ai pas mises, vous les chercherez. Et c'est heureux. Quand ça commence par heureux, on est dans la béatitude. À cette époque, peu de personnes avaient accès à la lecture des textes. Ce qu'on s'en rend compte aujourd'hui. Avec nos machins électroniques, où on a accès à des milliards d'informations. Peu de personnes avaient accès à la lecture des textes. Soit il n'y avait que très peu d'exemplaires, et en général, qu'est-ce que faisaient les églises ? Elles copiaient, d'accord ? Très tôt, les lettres du Nouveau Testament circulaient dans les églises, et à chaque fois qu'une église en recevait une, elle prenait le temps de copier la lettre. Soit les gens, tout simplement, ne savaient pas lire. Alors qu'est-ce qu'il se faisait ? Eh bien, il fallait bien que quelqu'un lise les textes et les lise à haute voix et de manière publique. Et Jean, donc, c'est ce qu'il fait avec, ici, il encourage à ce que ce livre soit non seulement lu, mais que les personnes qui entendent sa lecture en gardent les paroles dans leur cœur. Pourquoi ? Eh bien, car ce dernier livre de la Bible est non seulement un livre à lire, à étudier, mais comme toute la parole de Dieu, c'est aussi un livre à obéir. Et si je n'ouvre pas ce livre, par définition, je vais avoir beaucoup de mal à lui obéir. D'accord ? Encore un argument pour que vous dévoriez ce somptueux tableau, ces somptueux tableaux. Dans les temps de notre vie qui sont les plus difficiles à vivre à cause de la persécution, et il y en a aujourd'hui partout dans le monde, vous savez que les chrétiens font partie des populations les plus tuées et persécutées dans le monde, au milieu peut-être de la maladie, au milieu d'injustices ignobles que l'on peut vivre, au milieu de la perte d'un être cher, dans ces temps qui nous sont très compliqués à traverser, eh bien je crois qu'au lieu d'abandonner la foi ou de dériver parfois quant à la foi, eh bien on peut se plonger dans ce beau livre de l'Apocalypse qui est là pour nous aider à tenir ferme, à nous encourager à persévérer dans la foi, pour nous assurer qu'un jour, la justice, la vraie justice, elle sera appliquée, rendue, que le mal, sous toutes ses formes, sera jugé et anéanti, et que la vie éternelle nous attend, cette nouvelle vie, ah ben on l'a lu tout à l'heure, où il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors je voudrais qu'on termine ce matin, juste avant la prière, par appeler les 7 églises. Je voudrais appeler Éphèse. Aline, tu veux venir ? Je fais au pif. Hein. Smyrne, Joël, tu veux venir ? On va juste lire la Bible, ne vous inquiétez pas. Pergame, Thomas, qui veut jouer Thyatire ? Marie ? Sardes ? Nadine ? Philadelphie ? Sylvain ? Bon, celle-là, c'est la moins sympa. À qui je la refile, la Odyssée ? Bon, qui c'est qui veut la Odyssée ? Il me manque quelqu'un d'autre. C'est Joseph ? Allez, viens. Et je voulais juste qu'on lise le chapitre 1 de l'Église de l'Apocalypse, n'importe quoi, du livre de l'Apocalypse à haute voix. Juste pour se remettre encore dans ce qui se pratiquait à l'époque où ce livre a circulé au travers de ces sept églises et a été lu à haute voix par nos frères et nos sœurs. Nos frères et nos sœurs qui ont été dans un moment de persécution, mais qui malgré cela ont choisi de continuer à se rassembler, à se retrouver dans les communautés. Vous êtes mis dans le désordre, mais c'est pas grave. C'est dans l'ordre? Peut-être, Aline, tu lis deux versets et tous les autres, vous devrez lire trois versets pour arriver à la fin du chapitre.
Alors, je commence à Révélation de Jésus-Christ. Voilà, merci. Ok. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Pardon.
Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. »
Je me retournais pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être retournée, je vis sept chandeliers d'or et au milieu de ces sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sur sa tête et ses cheveux, étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. »
Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont à celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma, maison dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Pardon, terminons.
Merci beaucoup, on peut applaudir les lecteurs. Les chrétiens de l'époque, écoutez vraiment attentivement. Amen. Et on a besoin parfois de retrouver cette écoute de la parole de Dieu, où je la fais mienne, avant de repartir dans mon train-train de la vie. Et on a besoin peut-être aussi de réapprendre à lire la parole de Dieu à haute voix. Nos oreilles, elles ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Amen. Père, merci pour ta grâce et merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour le soutien que tu es, Seigneur, dans notre vie, chaque jour, quotidiennement, Seigneur. Tu es à nos côtés. Merci pour la force et le courage que tu nous donnes de persévérer dans la foi, dans la prière, et dans l'obéissance, Seigneur. Les yeux qui sont fixés sur le retour de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Ce retour qui est proche, car il revient bientôt. Garde-nous, Seigneur, dans ta main en attendant ce jour merveilleux et glorieux. Amen.